La villa, en suivant les demeures, nous arrivons à la deuxième ou au deuxième, selon comment on présente les choses. Donc, merci à frère Anthony Joseph de nous les faire parcourir ce soir. Et puis, voilà. Donc, on va refaire comme les autres fois, donc à peu près une demi-heure d'enseignement, et puis 10 minutes, 10-15 minutes de questions-réponses, et puis 30 minutes d'oraison et suivi des complis. Voilà. Et donc, la prochaine fois, ce sera le 14 janvier, je crois, pour les troisièmes demeures. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, frère Anthony Joseph, et puis que le Seigneur nous accompagne. On va prier l'Esprit Saint avec aux vives flammes d'amour, puisque nous fêtons Jean de la Croix lundi.
Alors oui, ce soir se poursuit notre école d'oraison guidée par le château intérieur de Sainte Thérèse d'Avila. Et en effet, ce soir, nous allons nous mettre à l'écoute de son enseignement dans les secondes demeures du château intérieur. Alors, nous avons déjà répété le titre de ce livre, Château, Château intérieur. Vous vous souvenez ce qui a été présenté le mois dernier? Nous avons écouté sœur Sabine Marie et sœur Charlotte Marie nous présenter le symbole structurant de ce livre de Thérèse d'Avila sur l'oraison. Le château, c'est une comparaison que forge sainte Thérèse, un petit peu dans le style des paraboles de l'Évangile. Comme si sainte Thérèse nous disait « À quoi allons-nous comparer notre âme, notre personne dans sa dimension spirituelle, dans sa capacité à entrer en relation avec Dieu ?» Et comme si elle répondait à cette question « Notre âme est comme un château éblouissant de lumière et de beauté, au plus profond duquel Dieu demeure. » Château, c'est donc le symbole qu'emploie Thérèse pour parler de notre âme. Une dimension très importante de cette parabole, en quelque sorte, de cette comparaison, c'est l'intériorité. Pourquoi est-ce qu'elle choisit ce symbole du château ? Eh bien, parce qu'il lui permet d'exprimer cette vérité de foi. Nous ne sommes pas vides au-dedans de nous. L'essentiel de notre vie, de notre être, n'est pas ce qui se voit à la surface, à l'extérieur, mais ce qui se passe à l'intérieur, ou plus exactement, celui qui est à l'intérieur et qui est Dieu lui-même. Dieu demeure en nous. Ma vie est portée par un autre, Dieu, mon Créateur, mon Sauveur. Alors, cette parabole, cette comparaison du château, elle a de nombreuses implications pour notre vie spirituelle. Je le rappelle très brièvement. D'abord, elle nous appelle à une prise de conscience. Une prise de conscience que Thérèse exprime assez douloureusement au début de son livre. Nous vivons, on ne va pas jauger, mais on aurait envie de dire 90% hein, au moins. Nous vivons 90% de notre vie à la surface de notre être, à la périphérie de notre être. Et c'est dommage, puisque l'essentiel se passe au-dedans. Alors, cette prise de conscience, elle est douloureuse, mais elle n'est pas désespérante, parce que cette prise de conscience, elle éveille notre désir d'entrer au-dedans de nous-mêmes pour rencontrer Dieu qui est là, présent. Mais lorsque nous avons un désir, nous connaissons ça dans toutes les dimensions de la vie, c'est important de prendre des moyens pour réaliser ce désir. Thérèse nous dit, vous avez pris conscience que vous êtes un château, que votre âme est un château au plus profond duquel Dieu demeure. Vous avez le désir d'entrer à l'intérieur pour le rencontrer. Le moyen, la porte du château, pour garder le langage de la comparaison, c'est l'oraison. L'oraison est la porte du château, le moyen pour réaliser notre désir de rencontrer Dieu présent au-dedans de nous. Alors, je rappelle que lorsque Thérèse nous dit « Notre âme est comme un château fait de nombreuses demeures », ce n'est pas un lieu spatial, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un lieu symbolique, ou plutôt, c'est une réalité spirituelle. Mais ce n'est pas une réalité physique. Il n'y a pas un recoin de, je ne sais pas moi, de mon crâne, ou de mon cœur, ou de je ne sais quoi, où physiquement Dieu serait là. Dieu est pur esprit, et c'est cette réalité spirituelle de Dieu, qu'est Dieu, cette personne qu'est Dieu, qui porte mon être tout entier de l'intérieur. Et pour exprimer ça de manière symbolique, eh bien, Thérèse a recours à ce langage de l'intériorité. Intériorité, donc. Et puis, l'oraison, d'accord, c'est un moyen pour entrer au-dedans de nous, à la rencontre de Dieu. Je voudrais rappeler le mot de recueillement. L'oraison, c'est une forme de prière qui met en œuvre le recueillement. Voyez-vous, pour entrer en relation avec les autres, comme nous sommes en train en ce moment d'entrer en relation ensemble, bien, nous avons des sens. Grâce au sens de l'ouïe, vous pouvez entendre ce que je dis. grâce au sens du toucher, vous pouvez tracer des mots sur le papier que vous avez entre les mains avec le stylo que vous utilisez. Puis nous avons aussi des facultés spirituelles. Notre intelligence qui nous permet de comprendre les choses, notre mémoire qui nous permet de nous souvenir et de faire du lien entre les choses, et notre volonté aussi qui nous permet de nous engager. Eh bien, toutes ces facultés, nos sens, notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, habituellement, elles sont dirigées vers l'extérieur. Il faut bien que je dirige mes sens et mes facultés vers l'extérieur pour m'adresser à vous. Eh bien, dans l'oraison, nous allons recueillir nos facultés. Et ces facultés qui habituellement sont tournées vers l'extérieur, et c'est une bonne chose, elles vont devoir se détourner de l'extérieur et se recueillir pour s'orienter vers Dieu présent au-dedans de nous. Entrer en relation non pas avec les réalités extérieures, mais avec Dieu, celui qui est au-dedans de nous, à l'intérieur. Alors, recueillement, c'est important de bien comprendre que ce n'est pas une affaire de concentration. Voilà, alors je vais me concentrer, je vais réfléchir au fait que Dieu est en moi. Non, ce n'est pas une question de concentration, c'est un engagement de ma volonté. Vous vous souvenez, le mois dernier, nos sœurs ont employé le mot d'amitié, entrer en amitié, en relation d'amitié avec Dieu présent au-dedans de nous. Autrement dit, ça met en œuvre une dimension affective et pas une dimension cérébrale de notre vie. Pour prendre d'autres images, c'est une affaire de cœur et pas une affaire de cervelle. Et puis, ce recueillement, c'est vrai, c'est un effort de la volonté, et puis qui se sert de moyens. Par exemple, ça a été évoqué le mois dernier aussi, pour me recueillir, eh bien, je peux, par exemple, chez moi, dans ma chambre, poser le regard sur un crucifix. C'est une image de Jésus avec qui je veux entrer en relation. Et cette image extérieure du crucifix va me permettre d'entrer en relation par la pensée, par la prière, par l'amitié avec le Christ et va m'orienter au-dedans de moi. Car si ce crucifix me permet d'entrer en relation par la prière avec Jésus, combien plus la présence réelle de Jésus au-dedans de mon cœur. Ou bien encore, pour entrer en prière, pour me recueillir, je peux me rendre dans une église, dans une chapelle, auprès du tabernacle, où se trouve la présence réelle sacramentelle de Jésus dans l'Eucharistie, et poser le regard sur le tabernacle, orienter mon cœur vers la présence de Jésus Eucharistie, m'aide à me recueillir et à le trouver aussi présent au-dedans de moi. Ou encore, méditer un passage de l'Écriture. L'Écriture, c'est la parole de Dieu. Lorsque j'ouvre l'un des quatre évangiles, eh bien, j'ai sous les yeux une scène de l'évangile où Jésus prend place. Cela me permet de méditer ce passage de l'Écriture, de m'arrêter plus particulièrement à une scène qui me marque, ou bien d'adresser une prière à Jésus comme si moi aussi je faisais partie de cette scène qui est décrite par les évangélistes. Eh bien, cette scène de l'Évangile qui s'est produite il y a 2000 ans en Terre Sainte, d'une certaine manière, elle se produit encore aujourd'hui dans mon cœur parce que Jésus est là. Donc, engagement de la volonté, recueillement avec les moyens que j'ai cités et bien d'autres encore. Tout cela, c'est un petit peu la toile de fond de l'enseignement de Thérèse d'Avila au sujet de l'oraison. Et si le mois dernier, nos sœurs nous ont parlé de l'entrée dans le château intérieur, ce mois-ci, nous allons parler d'une étape suivante sur le parcours de l'oraison dans les secondes demeures de ce château. Au passage, je vous rappelle, nos sœurs nous l'ont dit le mois dernier, Thérèse d'Avila parle de 7 demeures, mais parce que quand on parle, quand on écrit un livre, il faut bien avoir un plan, un schéma. Mais cela ne veut pas dire qu'elle décrirait cette étape linéaire de la vie spirituelle. Allez, maintenant, pendant un mois, on vit les premières demeures du château intérieur, et puis le mois suivant, les deuxièmes, et le reste de la vie, les suivantes. Non, d'abord, il ne faut pas voir les choses de manière linéaire. Puis, c'est comme si elle nous donnait 7 grands repères de la vie spirituelle, et nous les approfondissons sans cesse tout au long de notre vie. Alors, dans les secondes demeures du château intérieur, dans la deuxième partie de son livre, Thérèse emploie un maître mot. C'est un petit peu le mot phare de cette soirée, des secondes demeures. C'est le mot de persévérance. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette persévérance, vous l'avez mise en œuvre parce que vous êtes là ce soir. La bonne nouvelle, hein, c'est qu'il y a déjà quelque chose de cette persévérance qui est à l'œuvre. Pourquoi persévérance ? Eh bien parce que l'oraison, le recueillement, c'est un effort. Pas un effort volontariste que l'on réaliserait à la force du poignet, mais un engagement résolu de la volonté. Une relation d'amitié avec le Christ, un petit peu comme toutes les relations que nous entretenons avec nos amis, avec nos proches, cela s'entretient, cela s'alimente. Cela ne se fait pas tout seul. Pas à la force du poignet, mais on prend des moyens pour entretenir l'amitié. Si nous avons des amis de qui nous ne prenons jamais de nouvelles, à qui nous n'allons jamais rendre visite et dont nous refusons toujours qu'ils viennent nous voir, il y a de fortes chances que l'amitié se distende petit à petit. Avec le Christ, c'est un petit peu pareil. Pour l'oraison, c'est un petit peu pareil. Donc, prendre des moyens. Sur le petit papier qui sert de petit guide pour cette soirée, vous avez des citations de textes de Sainte Thérèse. La première des citations, si par hasard vous n'avez pas le papier entre les mains, vous pourrez le prendre tout à l'heure au fond de la chapelle. La première des citations se trouve dans les secondes demeures du château intérieur, au paragraphe 2, et Thérèse s'adresse précisément à nous ce soir. Il s'agit ici des personnes qui font déjà oraison et comprennent combien il leur importe de ne pas s'arrêter dans les premières demeures, mais qui cependant, faute de détermination, y retournent souvent, parce qu'elles ne s'éloignent pas des occasions. Il y a là un sérieux danger. Néanmoins, c'est déjà une grande grâce de Dieu qu'à certains moments, elles fuient les couleuvres et les autres reptiles venimeux, et qu'elles se rendent compte, ces âmes, que cette fuite, loin des couleuvres et reptiles, leur est avantageuse. Dans le langage symbolique de Thérèse, vous vous souvenez, les reptiles, les couleuvres, nos sœurs nous en ont parlé le mois dernier, ce sont toutes les préoccupations que nous portons. Quand nous entrons au-dedans de nous-mêmes, nous les amenons un petit peu avec nous. Et parfois, elles nous préoccupent tellement que nous sortons du recueillement, que nous abandonnons l'oraison pour nous consacrer à nouveau à nos préoccupations. Alors, l'oraison ne doit pas nous faire fuir notre devoir d'État, bien sûr, ne doit pas nous couper de la réalité, mais au moment où nous nous recueillons, c'est important de laisser ce qui nous préoccupe à l'entrée du château. Et vous avez sans doute déjà cette expérience que cela n'est pas toujours facile. Cela n'est pas toujours facile. Alors, qu'il y ait des couleuvres et des reptiles qui entrent avec nous à l'intérieur du château, ce n'est pas une faute de notre part. C'est tout à fait normal. Simplement, nous, ce qui nous incombe, c'est de ne pas dialoguer avec ces reptiles et ces couleuvres. C'est de les laisser le plus à l'extérieur possible du château et d'orienter notre cœur, par le recueillement, vers l'intérieur, là où Dieu se trouve. Persévérance, détermination, dit Thérèse dans ce paragraphe, c'est dans un autre de ses livres, Le chemin de perfection, mais je vous ai mis le deuxième texte sur la petite feuille. est tiré de ce livre du Chemin de perfection, un autre ouvrage de Thérèse, que c'est un passage fameux où elle emploie un petit peu une phrase choc. Maintenant, pour en revenir à ceux qui veulent suivre cette voie, la voie de l'oraison, sans trêve jusqu'au but, qui est d'arriver à boire cette eau vive de la joie de la présence de Dieu, je répète que les débuts sont très importants. Tout consiste en une ferme détermination très déterminée, de ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne. Une ferme détermination très déterminée. On a envie de lui dire, Sainte Thérèse, c'est bon, là c'est un double pléonasme. Et elle nous répondrait, oui, mais il faut que j'enfonce le clou parce que c'est vraiment important. Ferme détermination très déterminée de quoi ? De ne pas s'arrêter. De ne pas s'arrêter. Alors, de ne pas s'arrêter, et pour ce faire, Thérèse nous propose dans les secondes demeures, dans la deuxième partie du château intérieur, trois moyens qu'elle nous encourage à faire nôtre. Trois moyens pour nous aider à cette détermination, à cette persévérance sur le chemin de l'oraison. Le premier moyen, ça semble très simple, hein, presque trop simple, c'est le cadre de la prière. Choisir un lieu de la prière, un moment de la prière, une durée de la prière. C'est très simple, mais c'est indispensable. En fait, si nous y réfléchissons, il n'existe pas de rencontre, les philosophes nous diraient même il n'existe pas d'expérience, en dehors de l'espace et du temps. Je rencontre un ami, qui que ce soit, toujours en un lieu, à une heure et pendant une durée. Eh bien, pour l'oraison, c'est pareil. J'ai besoin d'un lieu, d'un moment et d'une durée. Alors, la différence entre la rencontre avec mes amis et l'oraison, c'est que là, c'est moi tout seul qui vais fixer le lieu, le moment et la durée de l'oraison. Et c'est indispensable de le faire. Par exemple, dans ma chambre, dans une pièce de ma maison, j'aménage un coin prière, un endroit où il y a une petite chaise confortable, une icône, un crucifix, une bougie que j'allumerai peut-être pour le temps de la prière. Et c'est cet endroit-là qui sera le lieu du rendez-vous de l'oraison. Et puis, je sais aussi qu'il y a des moments de la journée où je suis plus disponible, suivant qu'on soit du matin ou du soir, ou qu'on ait plus de temps où on sera libre de toutes les occupations, eh bien, je vais réserver ce moment-là pour l'oraison. Et puis, pour être sûr de ne pas me laisser guider par « aujourd'hui, je me sens bien dans l'oraison, donc je reste plus longtemps », ou « aujourd'hui, c'est plus difficile, je reste moins longtemps », je vais aussi fixer la durée et je vais m'y tenir. Par exemple, je décide de vivre un quart d'heure d'oraison. Voilà. Et si l'oraison est difficile aujourd'hui, je resterai un quart d'heure. Et si l'oraison se passe très bien, j'éprouve une joie intérieure, un grand recueillement, je m'en tiendrai quand même à un quart d'heure. Un lieu, un moment et une durée. Je vous recommande pour la durée de mettre une alarme sur votre téléphone pour éviter de regarder toutes les trois minutes si le quart d'heure est passé ou pas passé, et pof, voilà. Donc, premier moyen très important. Qu'est-ce que ça a à voir avec la persévérance, ça ? Eh bien, c'est que c'est un repère objectif auquel je peux revenir régulièrement. Et vous voyez, je ne vais pas me laisser guider au gré de mes sentiments superficiels, mais c'est comme un petit contrat, comme un petit engagement entre le Seigneur et moi. Premier moyen, donc, bien poser le cadre. Deuxième moyen, Thérèse ne nous cache pas dans les secondes demeures que l'oraison, l'engagement de l'oraison, eh bien, c'est un vrai combat spirituel. La persévérance, c'est un véritable combat. À vrai dire, nous ne sommes pas étonnés, nous en avons l'expérience dans toutes les dimensions de la vie. Il n'y a pas d'engagement qui ne soit pas un combat. je ne sais pas moi, par exemple, peut-être quelqu'un qui s'engage dans la vie religieuse, bien, il y a des dimensions de combat pour persévérer. Je suis certain que dans la vie professionnelle, même une fois qu'on a signé son contrat, il y a des moments de combat pour continuer à vivre sérieusement son travail. Je présume que dans la vie conjugale, dans la vie de parents, il y a aussi des combats pour continuer fidèlement à vivre ce que l'on a choisi de vivre. Ben, pour l'oraison, c'est pareil. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on y arrive dans d'autres dimensions de la vie. On va sans doute pouvoir y arriver aussi avec la grâce de Dieu pour l'oraison. Alors, il est vrai que Thérèse nous précise que dans l'oraison, ce combat, c'est un combat spirituel. Donc, il y a aussi des ennemis qui combattent contre nous. Les ennemis, ce sont nos mauvais penchants. Les ennemis, ce sont aussi les attraits superficiels de ce que la tradition spirituelle appelle le monde. Ou bien aussi cet adversaire, qu'est le démon, qui combat contre nous. Alors, Thérèse nous dit, puisque c'est un combat spirituel, il vous faut une arme. Et l'arme, c'est la croix. Cette petite phrase très vibrante qu'elle nous dit, au paragraphe 6 des secondes demeures, qu'il, toute personne qui s'engage sur le chemin de l'oraison, qu'il se persuade résolument qu'il va livrer bataille à tous les démons et que pour vaincre, il n'est pas de meilleures armes que celles de la croix. Et prendre l'arme de la croix, Thérèse précise, quelques lignes plus loin, au paragraphe 8 de ses secondes demeures, « L'unique ambition de celui qui commence à faire oraison doit être de travailler avec courage à rendre sa volonté conforme à la volonté de Dieu. » Prendre en main les armes de la croix, ça veut dire, comme Jésus, être fidèle jusqu'au bout à conformer notre volonté à la volonté de Dieu. Et dans le combat spirituel de l'oraison, la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est de nous attirer à lui, de nous unir à lui. Alors nous prenons les moyens, en étant fidèles à l'oraison, pour correspondre à cette volonté. Et puis enfin, le troisième moyen dont nous parle Thérèse dans les secondes demeures, c'est très beau, je trouve, ce qui précède aussi, hein, bien sûr, c'est l'entraide mutuelle. L'entraide mutuelle. Regardez, c'est le dernier texte qui se trouve sur notre petite feuille. À quiconque en est là, là où nous en sommes ce soir, il sera extrêmement avantageux de fréquenter ce qui s'adonne à la vie spirituelle et se lier non seulement avec les personnes qui habitent les mêmes demeures, mais encore avec celles qui ont pénétré dans les appartements plus intérieurs. Il trouvera dans leur compagnie un grand secours et à force de les fréquenter, il en viendra peut-être à partager leur séjour. Qu'est-ce qu'elle nous dit là ? Il ne s'agit pas de se dire « Est-ce que les carmélites sont plus avancés que moi sur le chemin de l'oraison ?» Donc je viens prier avec... Oui, sans doute, mais comme elles sont présentes, on ne va pas le dire. Et en fait, ce n'est pas ça la question, parce que beaucoup plus sérieusement, sur le chemin de l'oraison, il ne s'agit jamais de jauger où on en est. Ce que nous dit Thérèse, c'est « Entraidez-vous mutuellement, chrétiens qui désirez marcher sur le chemin de l'oraison. » Et d'une certaine manière, bah, c'est ce que nous faisons ce soir, en priant ensemble, en nous mettant ensemble à l'écoute d'un maître spirituel comme Sainte Thérèse. Et puis aussi, bah, peut-être dans nos partages spirituels, de pouvoir échanger pour nous entraider mutuellement. Cette dimension, elle est très importante parce que l'oraison a beau être une prière intérieure, une rencontre intime entre le Christ et nous, eh bien, je le dis déjà, on aura l'occasion d'en parler plus tard dans notre parcours, c'est aussi une prière qui a une très forte dimension ecclésiale dans l'esprit de Sainte Thérèse. Vous me direz, toute prière est toujours ecclésiale, oui c'est vrai, mais Thérèse souligne fortement que l'oraison, c'est presque l'une de ses raisons d'être pour elle, l'oraison a une fécondité pour l'Église. Je le nomme maintenant de manière très brève, on y reviendra plus tard. Bien, d'une certaine manière, déjà ce soir, déjà dans les secondes demeures du château intérieur, en nous encourageant à cette entraide mutuelle, Thérèse nous dit, n'oubliez jamais que l'oraison, pour intérieur et intime que soit cette prière, a une dimension ecclésiale. Entraide mutuelle, arme de la croix pour nous laisser unir au Christ et importance du cadre, le lieu, le moment, la durée, pour être fidèle à l'oraison et pour pouvoir vivre cette persévérance, cette détermination dont nous parle Thérèse d'Avila dans les secondes demeures. Peut-être qu'un exercice spirituel pour nous, pendant cette école d'oraison, où il n'y a pas seulement les rencontres de chaque mois qui sont importantes, mais aussi ce que nous vivons entre deux rencontres, peut-être que l'exercice spirituel pour nous, pendant le mois qui vient, pourrait être, si nous ne l'avons pas déjà fait le mois dernier, eh bien, de choisir notre rythme d'oraison pendant le mois qui vient. Voilà. Quel temps, quelle durée, quel moment je vais consacrer à l'oraison pendant le mois qui vient. Ce soir, le cadre nous est proposé, vivre ensemble dans cette chapelle maintenant, dans quelques instants, un temps d'oraison, pendant une demi-heure, pourront peut-être le mois qui vient aussi chacun le choisir librement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir à partir des secondes demeures de Sainte Thérèse. Nous avons une dizaine de minutes pour dialoguer s'il est besoin de donner l'une ou l'autre précision ou éclaircissement à partir de ce dont j'ai essayé de parler ce soir ou d'autres questions qui pourraient se poser en lien avec cette persévérance dans l'oraison. La parole est à vous si vous voulez bien.
Merci beaucoup mon frère pour cette école, cette classe. Pourriez-vous revenir un tout petit peu sur l'arme de la croix? Je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des recettes toutes faites, hein, c'est clair. Mais sur la forme ou les formes qu'elle peut prendre au sein de l'oraison, s'il vous plaît. Oui.
Merci, oui. Lorsque Thérèse parle de l'arme de la croix, elle... Je pense à plusieurs choses. La première à laquelle je pense, c'est vraiment cette dimension de la conformation de notre volonté à la volonté de Dieu. Hein, pour Thérèse, là, la croix est le symbole, au sens fort du terme, c'est la réalité de la conformation dans la personne de Jésus, de sa volonté à la volonté du Père. Je pense que c'est aussi pour elle le signe de la gratuité. Voilà. Je m'engage sur le chemin de l'oraison, non pas pour avoir des grandes consolations, des grandes joies, des mérites, des médailles en chocolat ou en quelque matière que ce soit, mais gratuitement pour l'amour de Dieu. La croix, c'est ce symbole de l'amour gratuit du Christ pour le Père et pour chacun de nous. Ensuite, je pense que pour Thérèse, l'arme de la croix, c'est aussi le fait que les mystères de la Passion sont ces méditations privilégiées dans l'Évangile. Parmi tous les passages de l'Évangile, elle privilégie les mystères de la Passion, sans doute parce que ce sont les mystères dans lesquels nous voyons l'amour de Jésus qui va jusqu'au bout. Bien sûr, le Christ nous aime dans tous les mystères de sa vie, Et dans les mystères de la Passion, les mystères de la Croix, nous voyons ce jusqu'au bout de l'amour. Et peut-être qu'en pensant plus particulièrement à la lutte contre l'ennemi, contre le démon, bien la croix, ben, c'est ce mystère justement contre lequel le mal vient se briser et est définitivement vaincu. Hein, c'est l'arme par excellence, parce que c'est l'arme par laquelle le Christ a vaincu. Vous savez, des fois, sur des tableaux, on voit le Christ ressuscité qui tient une hampe, avec comme un espèce de drapeau, et c'est la croix, instrument de supplice, qui s'est transformée en signe de victoire. Voilà, je penserai notamment à ces éléments-là, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres. Quelque chose à quoi je pense, alors Thérèse ne le dit pas explicitement, mais vous voyez, dans la tradition de notre ordre, au Carmel, lorsque nous faisons profession, nous recevons un crucifix, qui peut être de forme ou de taille variée, hein, que nous portons sur notre habit, sur le cœur. Et peut-être que c'est un signe de cela aussi, voilà, de cet amour du Christ et de cette arme de la croix sans cesse à portée de main, que d'ailleurs chacun peut avoir aussi sur soi dans sa poche au bout d'un chapelet. C'est cette arme que je vais pouvoir avoir d'une certaine manière toujours en main.
Merci beaucoup pour votre enseignement. Et je voulais vous demander au sujet de rechute, s'il y a persévérance, c'est parce qu'on chute à nouveau et que ça nous décourage. Et elle précise qu'en se confiant à Dieu et en se fiant à sa miséricorde, on va acquérir des vertus qui nous permettront d'échapper à la morsure des bêtes féroces qui ne pourront plus nous toucher ni épuiser. Et ça, moi, ça m'impressionne parce que cela veut dire que déjà de la deuxième demeure, on acquiert une force intérieure grâce à la persévérance.
Oui, c'est vrai que déjà, une fois que l'on s'est engagé sur le chemin de l'oraison, il y a une croissance dans les vertus. Mais vous voyez, pour reprendre la question des chutes, je dirais peut-être, le problème, ce n'est pas tant la chute, le problème, c'est le découragement que peut causer la chute. Que ça soit une chute, un manque de fidélité dans l'oraison, ou que ça soit une chute de l'ordre du péché, de la vie dans les vertus. Bien évidemment, le péché, c'est le péché, la chute, c'est une chute. Mais si l'on chute et que l'on se relève, voilà, eh bien, d'une certaine manière, par notre confiance dans la miséricorde de Dieu, mystérieusement, nous sommes encore plus proches du Christ, voilà, qui nous unit à lui par sa miséricorde. Le danger, plus encore que la chute, c'est le découragement que peut causer la chute. Et alors là, il y a un autre maître mot de la spiritualité de Thérèse, c'est l'humilité. En fait, le découragement, il ne faut pas culpabiliser nos découragements, mais c'est important de repérer que souvent, le découragement, paradoxalement, il a à voir avec une forme d'orgueil. Je me décourage parce que je suis tombé, je n'ai pas été fidèle, et ça me renvoie une mauvaise image de moi-même. Je me déçois moi-même. Voilà. Voilà. Bon. Et d'une certaine manière, l'humilité fait que, à chaque chute, nous mettons davantage notre confiance en Dieu. Voilà. Je suis déçu de moi-même, bon, très bien, mais que je ne sois pas déçu de Dieu. Voilà. Que je prenne conscience que je ne serai jamais déçu de Dieu. Donc, lorsque je chute, que je me relève. Ça, je crois que c'est vraiment important. On dit des fois que la vie spirituelle est un petit peu une suite de chutes et de relèvements, mais que globalement, quand même, en faisant une courbe un petit peu comme ça, globalement, ça monte. Voilà. Mais ce qui est important, c'est le mouvement global. Voilà, vous voyez, dans le mouvement de la vie spirituelle, c'est important de ne pas avoir le nez sur le guidon, des toutes petites choses, voilà, mais de voir globalement. Voilà, est-ce que ma vie est globalement orientée vers le Christ ? D'accord, avec des chutes et avec des relèvements, mais globalement orientée vers lui. Et voilà, c'est un orgueil très subtil de se décourager, parce qu'en fait, on n'y est pas arrivé soi-même à la force du poignet. Mais tant mieux, si je n'y arrive pas moi-même à la force du poignet, je pourrais y arriver par la grâce de Dieu, et c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière prise de parole ? Oui, je vous en prie.
Merci pour ce beau chemin que vous nous proposez. Je voulais savoir, est-ce que Thérèse a identifié les différents démons ? Enfin, vous avez donné quelques exemples tout à l'heure, mais est-ce qu'elle, elle en parle dans sa vie ou dans ses livres ?
Alors, vous voulez dire, est-ce qu'elle nomme différentes tentations, différentes formes que la tentation peut prendre ? Je dirais, elle invente rien par rapport au péché de la tradition spirituelle, mais vous voulez peut-être dire par rapport au chemin de l'oraison plus particulièrement. Voilà. Moi, je crois notamment ce découragement dont nous avons parlé, et puis cette forme d'orgueil de vouloir vivre les choses à la force du poignet. Elle-même, en fait, elle en parle dans un autre de ses livres, le livre de la vie. Ça nous encourage d'ailleurs sur le chemin. Elle nous dit qu'elle a passé 19 ans partagée entre le monde et Dieu. En fait, dans un passage assez saisissant, à la fin du chapitre 8 du livre de la vie, qui est un petit peu son autobiographie spirituelle, elle nous dit, en fait, je n'arrivais pas à avancer sur le chemin de la vie spirituelle, et maintenant je comprends que c'était parce que je mettais ma confiance en moi, et je ne comprenais pas que pour avancer, il faut perdre toute confiance en soi pour mettre toute notre confiance en Dieu. Alors je crois que là, elle identifie vraiment une tentation majeure de la vie spirituelle, de croire que si on n'y arrive pas par soi-même, c'est un problème. Elle nous dit, non, justement, comme il est question d'union à Dieu, nous ne pouvons pas nous la procurer à nous-mêmes. Et il s'agit de nous disposer pour recevoir de Dieu lui-même cette grâce de l'union. Je pense notamment à cela parce que c'est vraiment un danger, une tentation massive qu'elle souligne. Peut-être qu'après avoir parlé de l'oraison, nous allons pouvoir prendre notre temps d'oraison pour nous recueillir. Nous pourrons commencer par prendre le chant humblement qui se trouve sur notre petite feuille. Et puis ce sera ce temps d'oraison silencieuse qui durera une demi-heure.